Place Info.
Bonsoir à tous. L'hommage aux 13 soldats français tombés au Mali à la une des informés. Également la mobilisation contre la réforme des retraites à J-3 et la COP 25 sur fond d'intempéries à répétition. C'est donc dans les informés avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, magazine d'investigation sur l'Europe le dimanche sur Arte, avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France, et Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique, enseignant à Sciences Po. Bienvenue à tous les trois, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30, exceptionnellement, à la radio seulement, en raison du mouvement social qui se poursuit à Radio France. La France a donc rendu un ultime hommage aux 13 enfants de France tombés il y a une semaine au Mali dans la collision de deux hélicoptères lors d'une opération anti-djihadiste. Extrait du discours du président Emmanuel Macron dans la cour des Invalides.
Loin de France, ce 25 novembre, 13 de nos plus valeureux soldats, 13 enfants de France, étaient tués sur le coup. Ils étaient morts en opération pour la France. Pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde. Pour nous tous qui sommes là, réunis dans cette cour. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles. J'assure du soutien du pays tout entier les frères d'armes de nos 13 morts. Certains sont parmi nous. Tous les autres poursuivent le combat au Sahel. Nous pensons à eux en cette heure où la mission continue, sans trêve aucune.
Voilà, donc hommage national, Nora Hammadi, et la mission va continuer. Hein. C'est le cas, sans trêve aucune, le chef de l'État le rappelle.
Oui, effectivement, mais il faut dire que la situation au Sahel, en fait, n'est toujours pas stabilisée. Et on sait très bien qu'en fait, une déstabilisation de cette zone entraînerait de facto un effet domino, en fait, qui a conduit, d'ailleurs, sous François Hollande, la France à s'engager pour aller aider, en fait, le Mali. Faut-il rappeler également que le Mali est près de l'Algérie, que cette zone, en fait, cette bande sahélienne, il y a quelques années, avait été aussi frappée en Algérie par des prises d'otages, en fait, de zones d'exploitation, oui. En fait, de pétrole. Donc, oui, 4500 hommes sont encore déployés là-bas. On attend encore, et c'est Florence Parly qui le rappelait, et Nathalie Loiseau également, au Parlement européen la semaine dernière, on attend encore, en fait, de l'aide de la part des alliés européens, une aide qui ne vient toujours pas. Il y a un soutien logistique de la part de 22 pays européens, mais rien qui ne s'apparente, en fait, à
oui,
des forces armées
sur place.
Oui, ça a été dit,
on est un petit peu seul, malgré quelques éléments de logistique,
oui,
on va dire, qui sont derrière nous. Jannick Halimi, il en va de la sécurité, on va le dire quand même, des pays membres du G5 Sahel, sur zone, hein, mais aussi bien de la France, de l'Europe en général.
Mais bien sûr, ceux qui, légitimement, hein, même si on peut dire que c'était un peu trop rapide après le décès de ces 13 personnes, donc une polémique s'est élevée très rapidement pour savoir si, non pas si c'est mort.
Oui, la question avait été posée du moins dès le lendemain.
Oui, oui. Notamment par la France Insoumise qui se posait la question.
Mardi dernier. C'était mardi dernier à l'Assemblée nationale, vous avez raison.
Tout à fait, quelques heures après qu'on a appris le décès de ces 13 soldats, l'utilité de l'opération Barkhane, donc dans cette zone du Sahel. Mais oui, c'est utile. L'intervention française, l'engagement français, comme le disait Nora Hammadi, n'est peut-être pas suffisant. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, qu'il fallait réexaminer les modalités de Barkhane et que des aides supplémentaires militaires et autres de l'Europe est vraisemblablement nécessaire. Il faut aussi souligner, même s'il n'y a pas d'hommes, que le renseignement américain est extrêmement important. Ça, j'ouvre une parenthèse. Mais oui, bien sûr, c'est la sécurité de cette zone. Mais pas seulement, parce que tout le monde le dit, les experts le disent, les hommes et les femmes politiques le disent, si on ne luttait pas contre le terrorisme là-bas, il y aurait un califat qui se remettrait en place immédiatement. Et puis rappelons-le très rapidement, le sommet de l'OTAN qui va avoir lieu demain à Londres, terrible ironie de l'histoire, se passe quelques jours après un attentat
au couteau
par un islamiste. Donc on voit bien que ce qui peut se passer sur les lieux mêmes des conflits a bien sûr des répercussions terribles et funestes dans nos pays, en l'occurrence en Europe.
Alors Bruno Cotteresse, on a vu, hein, ces Parisiens qui se sont rassemblés, qui ont pu se recueillir, on va dire, au passage des cercueils sur le pont Alexandre III ce matin en fin de matinée. C'est la tradition désormais quand il y a ce type de dommages, de cérémonies aux Invalides. Est-ce que selon vous, il y a une prise de conscience, on va dire, de l'opinion publique, de cette, au fond, nécessaire tension que nous maintenons dans la lutte contre le terrorisme.
Oui,
ou est-ce que ce sont peut-être des éléments qui nous échappent avec les mois qui s'écoulent ?
Oui, mais cette prise de conscience, elle ne date pas de cette tragédie qui s'est passée pour les soldats français. L'opération Barkhane, elle date d'il y a plus de 5 ans maintenant. La France est engagée dans des opérations de ce type depuis en fait de très nombreuses années. Effectivement, l'opinion publique s'est progressivement habituée à ce que nous ayons régulièrement des pertes. On se rappelle qu'il y a eu des pertes très importantes déjà sur les différents fronts sur lesquels les soldats français se battent. La cérémonie d'aujourd'hui...
41 soldats tombés au Sahel.
Voilà, ça commence à être beaucoup. Donc il y a une prise de conscience, c'est certain, mais je pense que cette prise de conscience, elle nécessite qu'à un moment donné, effectivement, régulièrement, le politique vient réexpliquer aux Français à la fois les objectifs et puis aussi l'état d'avancement. C'est-à-dire, évidemment, on touche au secret militaire, c'est un élément très important de la défense, le secret militaire. Mais c'est vrai qu'aux yeux de l'opinion, nous rappeler non seulement nos objectifs, mais déjà nos résultats serait quand même un point tout à fait important.
Allez, 20h10 minutes. Ah, vous, encore un mot.
Non, juste, et puis surtout, la menace terroriste, en fait, reste très importante, y compris sur notre territoire. On l'a vu à la préfecture de police. Enfin, ça fait partie, en fait, de cette menace qui, de toute façon, légitime aussi la continuité, la pérennité, en fait, de cette opération.
Un élément, parce que Bruno Coltès parlait de la nécessité de pédagogie, d'explication vis-à-vis de l'opinion publique et de la nation. Peut-être aussi faudrait-il, et du coup, la France Insoumise le propose, soumettre au débat, ou en tout cas à l'information, j'en sais rien, devant le Parlement. C'est quelque chose qui n'a pas lieu. Donc ça aussi participerait peut-être de la démocratie et peut-être aussi de la nationalisation, entre guillemets, de ce genre d'opérations qui sont loin tout de même du territoire français et qui pourraient être effectivement mieux intégrés. En tout cas, ce serait peut-être plus démocratique.
Allez, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Solène Cressan.
Pas d'autres victimes dans l'éboulement des Alpes de Haute-Provence. Un rocher de 3000 mètres cubes s'est décroché vers 16h15 entre Manosque et Sisteron au Mai. Il y a 2 blessés légers et 1500 foyers privés d'eau. Selon la préfecture, cet éboulement est lié aux intempéries et aux graves inondations d'hier qui ont fait 6 morts. Dans le Var, une femme de 61 ans est portée disparue. À 2 jours de la grève du 5 décembre, la CFDT Cheminot appelle à son tour à la grève reconductible. Le syndicat avait déposé un préavis de grève, mais estime qu'il n'a pas obtenu de réponse de l'exécutif sur la réforme des retraites. Une 8e personne mise en examen dans l'enquête sur les attentats de Trèbes et Carcassonne. Un homme soupçonné d'avoir fourni des armes à l'assaillant. 4 personnes sont mortes, dont le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Une 15aine de pompiers professionnels installent un campement Place de la République à Paris. Le syndicat SUDS10 veut dénoncer le manque d'effectifs et de reconnaissance alors que les demandes d'assistance augmentent. Il prévoit d'y rester toute la semaine. Des palmes de chevaliers de la Légion d'honneur remises à titre posthume aux 13 soldats français morts au Mali. Hommage national aux Invalides cet après-midi devant 2500 personnes. Et puis la cérémonie s'ouvre dans une 20aine de minutes au Théâtre du Châtelet. Le Ballon d'Or pour récompenser le meilleur joueur de football du monde. Meilleure joueuse aussi bien sûr et meilleur gardien. Lionel Messi, grand favori, est arrivé en famille. Didier Drogba et Sandy Heribert co-présentent la cérémonie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
À 3 jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, la bataille, eh bien, elle passe aussi par la communication. Il y a eu ce séminaire hier à Matignon, montrant un gouvernement en mode, allez, décontracte, affichant sa volonté de parler d'une même voix, pour tenter sans doute de riposter, notamment au procès en opacité totale, instruit par Gérard Larcher, qui a réclamé une clarification autour du projet du gouvernement, propos relayé ce matin par l'eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy, sur Public Sénat.
Il faut absolument, comme l'a dit le président du Sénat, que nous ayons enfin droit à un débat clair. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très paradoxale où la tension qui monte dans la société n'est pas le résultat d'un projet qui serait sur la table et dont on pourrait discuter, mais d'abord le produit de cette situation anxiogène dans laquelle, en réalité, nous ne savons pas. Ça fait des semaines, ça fait des mois même que l'on voit les allers-retours, y compris parfois les contradictions au sein du gouvernement, sur un sujet qui est pourtant majeur. Quand on parle des retraites, on ne parle pas d'un sujet technique. Il est tout à fait nécessaire d'avoir enfin de la clarté.
Cette clarification, Bruno Cotterêts, attendue à la mi-décembre, est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tard ?
Oui, oui, c'est effectivement, je crois que c'est un peu le nœud du problème. C'est-à-dire qu'on voit bien dans la bataille d'interprétation qu'il y a des lignes qui sont des lignes aujourd'hui assez fortement campées, positionnées, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans l'opinion, essayent de s'y repérer en dehors de ces lignes d'opposition ou de soutien à la réforme. Et qu'alors là, effectivement, on manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Moi, je me suis intéressé, par exemple, à un problème qui n'est pas mince et qui ne concerne pas qu'une petite minorité de Français, qui est que va-t-il advenir pour les futures générations de fonctionnaires de l'État, par exemple. Ouais. On n'arrive pas à savoir exactement, on nous dit le haut-commissaire aux retraites, membre du gouvernement aujourd'hui, a fait des hypothèses, a élaboré des scénarios, mais on ne peut pas savoir très 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 précisément qu'est-ce qui va se passer pour les fonctionnaires d'aujourd'hui ouais. qui rentreront dans le système, y compris si la réforme ne leur est pas appliquée en fonction de leur âge. On dit que l'État leur garantirait le maintien de leur...
C'est ce flou qui, selon vous,
donc on a le sentiment à un moment donné que ouais. sur quelque chose qui est un plus qu'un pilier de la vie économique et sociale, qui est quelque chose qui est le cœur du modèle économique et social, c'est-à-dire assurer aux personnes qui ont légitimement qui ont travaillé toute leur vie, leur assurer une pension, etc. Donc on a le sentiment d'un grand flou, d'un dossier qui pourtant, malgré l'énergie qu'on y a consacrée, puisque le haut-commissaire aux retraites travaille temps plein sur ce dossier depuis maintenant 2 ou 3 ans, on a le sentiment toujours d'un flou.
Sur des choses qui sont
peut-être 2 ans, mais en tout cas, voilà.
Jeanne Calimi, grand flou. Hein,
voilà, des choses tout à fait essentielles pour les Français.
Grand flou et aussi, on va y revenir avec vous, et aussi forte mobilisation, parce que je vous le cite au passage, Le Parisien aujourd'hui en France, qui titrait ce matin, c'est assez intéressant, en grève, le guide survie avec 5 pages spéciales, très couteau suisse, hein, au fond, votre édition du Parisien aujourd'hui.
Oui, mais très sérieux quand même. Oui,
il se passe quelque chose au fond, d'assez sérieux. Le jeudi 5, on sent une mobilisation forte pour répondre justement à ce flou.
Bien sûr, ça peut être par le flou, ça peut être aussi par l'opposition sur des éléments très concrets, certains ne voulant pas tout simplement ce que l'on sait quand même, la suppression, mais quand des régimes spéciaux, certains ne voulant pas du tout les régimes par points. Il y a quand même des éléments qu'on connaît, mais effectivement qui restent à préciser sans décliner les professions qui elles-mêmes restent totalement dans l'opacité, comme disait Gérard Larcher, le président du Sénat. Donc oui, il y a le flou, il y a aussi l'opposition sur, encore une fois, certains éléments de la réforme ou sur la réforme dans sa globalité. Et le 5 sera probablement oui. après massivement suivi, mais se pose plusieurs questions. La question et l'inquiétude la plus forte pour le gouvernement, au-delà bien sûr de la mobilisation, c'est la violence ou pas au sein de ces défilés. On craint véritablement une gilet jaunisation, une black bloquisation de la...
C'est un peu l'inquiétude, oui.
Voilà, de cette mobilisation, ce qui voudrait dire plus fondamentalement que les organisations syndicales qui devraient encadrer, qui encadrent officiellement ces défilés, perdent la main. Donc on a non seulement une opposition, mais en plus une opposition représentée par des organisations syndicales qui ne pourraient plus véritablement encadrer ces défilés.
On le voit aussi notamment avec la CFDT cheminots, hein, qui se démarque au fond de la centrale.
Alors hein. voilà, il y a aussi ça effectivement. Donc il y a cette mobilisation le 5 décembre, et il y a bien d'autres éléments qui inquiètent le gouvernement, à savoir si je peux terminer.
Oui, allez-y, je vous
voilà, pardonnez-moi. À savoir, est-ce qu'après le 5 décembre, le conflit se poursuivra sur le modèle de 1995 ? Est-ce qu'il y aura une convergence des luttes ? C'est-à-dire que pour le moment, essentiellement, je dis essentiellement, pas que, c'est surtout les fonctionnaires, les régimes spéciaux, quelques professions libérales qui craignent pour leur régime autonome qui y vont. Mais est-ce que ça s'élargira, par exemple, aux transporteurs routiers ou aux salariés de l'industrie chimique ? On voit que certains, comment appelle-t-on ça, pardonnez-moi, enfin
les raffineries.
Les raffineries,
les dépôts, carburants, oui.
Certains d'entre eux sont déjà en grève. Donc,
il y a quand même des signaux, c'est ce que vous nous dites ce soir, des signaux quand même de quelque chose qui est en train de s'organiser. On le verra d'ailleurs demain avec, vous savez, les préavis de grève, c'est 48 heures, donc nous aurons une indication un peu plus précise de ce qui va se produire demain.
Demain, oui.
Nora Amadi, je voudrais vous soumettre ce propos qu'a tenu ce matin Ségolène Royal. Marial, l'ancienne candidate qui était l'invitée d'Europe 1, sur ce pays, selon elle, qui aurait besoin de se retrouver avec une, et cette réforme qui peut-être tomberait mal. Écoutez bien.
Aujourd'hui, la France a besoin de calme, il y a besoin d'unité.
Et ça ne se décrète pas.
On est quand même secoué maintenant depuis 2 ou 3 ans par une succession de réformes qui n'entraînent pas l'adhésion du pays. Et donc, pour savoir si oui ou non, il faut s'obstiner sur une réforme, la question toute simple, c'est de savoir si les inconvénients d'une obstination et du maintien d'une réforme à laquelle les Français n'adhèrent pas massivement n'entraînent pas plus d'inconvénients que davantage.
Nora Madi, sacré doute émis par Ségolène Royal.
Oui, alors après, bon, Ségolène Royal, est, sans vouloir un petit peu pinailler, se retrouve dans l'opposition au président de la République, bah oui. Souvent quand ça l'arrange un peu. Mais là, ce qu'il faut savoir entendre aussi, c'est qu'il est vrai que depuis les Gilets jaunes l'année dernière, et on a commémoré il y a 2 semaines, en fait, les 1 an de ce mouvement, qui s'est affaibli, certes, mais la colère n'est pas véritablement retombée, même si le président de la République a mis 17 milliards d'euros sur la table au mois de décembre dernier. Il faut voir que les pompiers, les policiers, les services hospitaliers, l'éducation nationale, les étudiants, depuis quelques semaines également, il y a une forme de ras-le-bol en fait global, et il ne faudrait pas qu'effectivement, pour la sécurité de l'État, que ces mouvements coagulent. Après, vont-ils coaguler ? Je le pense pas. La question, là, surtout, c'est comment réussir effectivement à recréer du lien social, faire en sorte de remettre un peu de vivre ensemble, un peu de douceur, et on a vraiment le sentiment que... Bon, il y a eu des mots aussi usés du côté du gouvernement, parfois dans une forme de stigmatisation des professions, en fait, des fonctionnaires notamment, ou des régimes spéciaux, qui sont parfois indélicats eu égard en fait à des je pense notamment à ce qu'on a pu dire sur ces manifestations, ces préavis de grève sont pour préserver des inégalités. Bon, enfin, je pense qu'il faut savoir aussi raison garder dans la manière dont on stigmatise parfois aussi un corps social.
Dernier mot rapidement, Bruno Cotterêts, sur ce sujet, ce qu'évoquait d'ailleurs également Jeannick Halimi, ce côté un petit peu peut-être de l'ordre de quelque chose qui peut se produire, qui échappe au contrôle des grandes centrales syndicales. On avait dit il y a 1 an, Gilets jaunes, c'était incontrôlable. Et là, pour le coup, ça devenait plus classique. Pas sûr.
Oui, on est en train d'observer régulièrement en France, effectivement, que des phénomènes très importants échappent au contrôle des organisations partisanes et syndicales. On l'a vu très clairement dans la crise des Gilets jaunes. Il y a une première indication qui a été donnée par rapport à une mobilisation sur le TGV Atlantique il y a quelques semaines, qui aussi était partie en dehors des organisations...
Oui, des fameux dépôts, oui.
Des organisations syndicales. Et il y a une forme, effectivement, dans le pays, de colère qui a du mal à être aussi bien canalisée qu'auparavant par les grandes organisations partisanes et syndicales classiques.
Alors je dis ça très vite, mais en fait on se rend compte que les centrales et les fédérations syndicales sont débordées aussi par leur base. Et c'est là qui est en train de se passer et qui...
J'arrête. Allez, 20h et 21 minutes sur France Info, le temps tourne. Rappel de l'info tout d'abord avec vous, Solène Cresson.
D'immenses roches vieilles de millions d'années se sont décrochées dans les Alpes de Haute-Provence suite aux grosses intempéries. 2 personnes sont légèrement blessées. Un éboulement au Mai entre Sisteron et Manosque lié aux grosses intempéries de ce week-end. 1500 foyers sont privés d'eau. Certains habitants ont été évacués par précaution. Ce soir dans le Var, une femme de 61 ans est portée disparue. Les inondations ont fait 6 morts. Les professionnels du BTP parlent d'avancée après leur réunion au ministère de l'Économie, mais le gouvernement ne reviendra pas sur la fin du gazole défiscalisé. Plusieurs dépôts pétroliers de l'Ouest sont toujours bloqués, certaines stations-service à sec ou réquisitionnées. 2 hommes en ce moment en garde à vue à Strasbourg dans l'enquête sur l'attentat du marché de Noël. 5 personnes sont mises en examen dans l'affaire, dont 3 hommes d'une même famille, soupçonnés d'avoir fourni des armes à l'assaillant. Chérif Chekat a tué 5 personnes le 11 décembre 2018. Sylvie Goulard, mise en examen pour détournement de fonds publics dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif des assistants du Modem. L'ancienne ministre des Armées avait dû démissionner en juin 2017 à l'ouverture de l'enquête. Le Parlement de l'Union européenne a aussi rejeté sa nomination à la Commission en octobre dernier du fait de ses soupçons. Et puis la cérémonie du Ballon d'Or pour les meilleurs joueurs de football du monde commence dans une dizaine de minutes au Théâtre du Châtelet à Paris. Parmi les grands favoris, Megan Rapinoe, l'américaine championne du monde, et Lionel Messi chez les messieurs. Le meilleur gardien doit aussi être récompensé.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Difficile d'évoquer ces intempéries particulièrement violentes, comme le disait à l'instant Solène Cressan, sans faire le lien avec le réchauffement climatique. Et pourtant, ces épisodes de cévenol méditerranéen ne sont pas liés au dérèglement du climat. Ils sont là depuis toujours et se répètent chaque année à plusieurs reprises. En revanche, et ça c'est nouveau, c'est l'intensité des pluies qui a augmenté, rappelle Jean-Pierre Hameau, notre prévisionniste à Météo France. Évidemment, ces intempéries surviennent au moment où la COP25 s'est ouverte à Madrid, la conférence climat de l'ONU. Je vous propose d'écouter ce propos assez alarmiste d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
Ce que nous déciderons ici montrera si nous choisissons l'espoir ou la capitulation face au changement climatique. Et rappelez-vous que nous nous sommes engagés devant le monde entier avec l'accord de Paris et que c'était une promesse solennelle. Ouvrons nos oreilles à tous ceux qui demandent du changement. Ouvrons nos yeux sur les menaces imminentes que nous avons à affronter. Ouvrons nos esprits à ce que nous dit la science unanimement. Il n'y a plus de raison de retarder notre action. Ce serait une trahison pour l'humanité tout entière et les générations à venir.
Nora m'a dit, on a la sensation année après année depuis, au fond, la conférence de Paris, que nous sommes dans l'injonction, on agite finalement des menaces qui sont bien réelles, qui vont grandissant. Et pourtant, la Terre se réchauffe toujours.
La Terre se réchauffe toujours. Effectivement, on voit en plus que la situation a tendance à empirer. Alors, vous évoquiez l'épisode cévenol qui se déroule pour la deuxième fois en 15 jours en ce moment dans le sud
intensité
de la France.
Intensité des pluies, hein, c'est ça
intensité
qui est nouveau.
Intensité des pluies. Oui. Et puis, le fait que les villes aujourd'hui ne sont pas assez résilientes et ne sont pas en capacité, les sols bitumés ne sont pas en capacité, en fait, d'absorber toute cette eau. Mais prenons la Californie qui brûlait sous des feux immenses il y a encore quelques semaines. L'Australie, on en est à une fois et demie, en fait, l'Amazonie qui a brûlé, les koalas sont aujourd'hui déclarés en fait en extinction. Donc cette réalité-là, elle existe et effectivement, on se rend compte qu'il y a une difficulté de la part des pouvoirs politiques à passer à l'action, de sortir de ces admonestations, de ces grands mots, et depuis la COP21. Je rappelle juste, pour ce qui est de l'Union européenne, que l'accord de Paris n'est toujours pas appliqué, qu'on ne sera pas à moins de 2,5 degrés, ouais. Et que, prenons par exemple l'objectif de la neutralité carbone que s'étaient donné les Européens il y a quelques mois lors d'un sommet qui s'est mal fini, puisque du coup, il y a plusieurs pays qui ont refusé, en fait, de se donner cet objectif-là, et ben rien que l'Europe, qui se veut être un peu le chantre, le héros de cette question, n'est pas à la hauteur des enjeux. Les Polonais, les Allemands continuent avec le charbon. Bon, voilà, effectivement, est-ce qu'on est dans une capitulation, comme le dit Guterres? Quoi qu'il en soit, on est dans une urgence climatique qui est importante, mais les actes ne sont pas à la hauteur des faits.
Rapidement, parce que le temps tourne, Jadik Halimi. Oui. Capitulation ou tournant?
Non, mais alors attention, oui. Moi je pense qu'il faut pas se méprendre sur les propos un peu noirs de Guterres.
Réaliste, on peut les qualifier de réaliste.
Il y a aussi deux stratégies, deux postures politiques.
Il dit que c'est maintenant, voilà, c'est maintenant.
Oui, d'accord, mais soit on est sombre et on dit si c'est maintenant ou jamais, soit on dit on n'a peut-être pas assez bien fait, mais il y a encore le temps et les moyens et l'espace politique et l'opinion publique pour le faire. C'est ce que dit par exemple, enfin je veux pas être politique au sens partisan du terme, c'est ce que dit par exemple Édouard Philippe, et toute une partie, par exemple, aussi, par exemple, Yannick Jadot chez Europe Écologie Les Verts. Certes, on a peut-être perdu...
Combat gagnable, a dit le Premier ministre de la France.
Oui, voilà, il faut rester, c'est ce que dit, me semble-t-il, Guterres en citant le progrès technique. Oui. Quand on croit au progrès technique, il ne faut pas croire qu'on est dans un monde un peu millénariste où tout ça va terminer à la catastrophe. Il y a des possibilités, même si c'est plus lent que prévu, des possibilités de redresser la barre.
Maintenant,
et
oui,
c'est à chacun de nous, les villes, les citoyens, les pouvoirs publics, de mener le jeu, mais sans non plus la jouer à l'ayatollah de l'écologie.
Bien compris le message. Bruno Cotterêts.
Oui, effectivement, non seulement le combat est gagnable, mais il y a aussi, je pense, un gros travail d'éducation aux données scientifiques. On voit que dans beaucoup de pays, il y a un doute quand même qui continue d'exister, à la fois sur la réalité ou sur les causes du réchauffement climatique. Pourtant, toutes les évidences scientifiques, toutes les données des chercheurs sont absolument... incontestable. Donc il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là, de l'éducation des citoyens aux données scientifiques, en particulier sur cette question, parce que on voit que, eh bien, si aucune éducation n'est faite, on verra des tensions sur les grands choix qui devront être faits.
La une du Parisien aujourd'hui en France, demain, Jeannick Halimi.
Demain, c'est la semaine décisive. Qui s'ouvre avec la grève du 5
décembre. Retraites, d'accord. Absolument. Merci à tous les trois, Nora Madi, Jannick Halimi, Bruno Cotterêts, d'avoir participé à ces informés plus courts que d'habitude. On se retrouve demain soir sur France Info. Merci, bonne soirée.